France Inter, le 18-20.
Depuis un an, vous le savez, si vous en aviez une, la carte « J'accepte de donner mes organes » n'est plus nécessaire puisque le don est devenu normalement automatique, sauf à signifier officiellement votre refus. Du coup, le nombre de greffes a pu augmenter, la prise de conscience a fait son chemin aussi, mais il reste un refus important de don d'organes qu'il faudrait tâcher de faire redescendre. Un refus qui vient des proches, souvent, un refus qui parle de principes, un refus qui parle de croyances, qui parle parfois peut-être aussi de préjugés. Alors comment mieux expliquer aux familles, comment peut-être mieux les préparer, surtout pour le don du sang, les préjugés ne jouent pas, là c'est peut-être plus facile, mais il faut toujours rappeler, toujours faire des campagnes, surtout en cette période de fête qui est compliquée pour les hôpitaux, sachant que les restrictions qui existent encore sur les homosexuels sont peut-être un frein. On parle de tout cela ce soir, vos expériences, vos craintes, vos réticences, c'est à vous de jouer, soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Philippe, c'est vous le premier. Soyez le bienvenu sur France Inter, on vous écoute.
Bonsoir.
Allez-y.
Alors, je me permets, comme j'ai expliqué au standard, moi j'y comprends plus grand-chose. C'est-à-dire que je suis pour le don d'organes. Avant, j'avais pas de carte, je l'avoue. Là, maintenant, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il m'arrive quoi que ce soit, qu'on me prélève des organes, mais exactement comment ça se passe? C'est-à-dire que sur moi, j'ai rien, j'ai pas de carte, on est bien d'accord, j'ai un accident de voiture. Comment ça peut se passer? On m'amène à l'hôpital, je meurs.
Voilà. On vous le souhaite pas quand même, Philippe.
C'est pas arrivé, on n'est pas à l'abri. Mais de dire voilà, je me mets à la place du médecin, du chirurgien, de faire et comment ça se passe au niveau de la loi, c'est-à-dire que ok, sur moi je n'ai rien, j'ai peut-être pas de papier, même je suis même peut-être parti sans mes papiers, sans rien du tout. Donc j'ai rien sur moi. On va dire ok, on peut prélever des organes, ce qui moi me dérange pas parce que je suis pour à 200%, mais j'imagine que quelqu'un qui prend la décision, un médecin, un chirurgien, etc., comment ça peut se passer avec la famille, qui elle va peut-être pas être d'accord. Je trouve qu'il y a un côté pas clair.
On est là précisément, Philippe, pour essayer d'éclairer votre lanterne, si je puis dire, et essayer de bien faire comprendre les choses à chacun et tous ceux qui nous écoutent pour vous répondre et pour dialoguer avec nous ce soir. Olivier Bastien est là, en duplex depuis Lyon, directeur prélèvement greffe organes tissus à l'agence de biomédecine. Martial Solage est là, infirmier coordinateur des prélèvements à l'hôpital Cochin. François Charpentier, directeur collecte et production de l'établissement français du sang. Et Daniel Messager, aussi spécialiste santé à France Inter. C'est avec vous que je vais commencer, Martial Solange. Qu'est-ce qu'on doit répondre à notre ami Philippe qui finalement est un peu perdu? Qu'est-ce qui se passe effectivement? Voilà, j'ai un accident, je meurs, je suis à l'hôpital. Est-ce qu'on prend tous mes organes comme ça? Comment ça se passe?
Bonsoir. Donc, en effet, dans un premier temps, ce qui va être réalisé, ça sera un abord au niveau des proches du défunt, afin de recueillir donc auprès des proches si le défunt de son vivant s'était exprimé. C'est pour ça que la carte, en effet, gérée, laisse une grande interrogation, parce qu'on n'a pas toujours la carte sur soi, comme disait Philippe. Mais en fin de compte, la priorité est vraiment de se prononcer auprès de ses proches pour dire si on est pour ou contre le don d'organes.
Mais attendez, moi je croyais qu'il n'y avait plus de carte, que c'était plus la peine, puisque désormais, de rechef, on peut, sauf si on signifie son refus. C'est plus compliqué que ça, alors?
Non, c'est pas plus compliqué. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait en effet cette carte. Une grande réflexion est en cours actuellement au sein de l'Agence de la biomédecine pour savoir si justement cette carte a toujours sa place ou non. Mais en fait, cette loi, depuis la réforme qui a eu lieu donc en début d'année 2017, va surtout inciter les gens à se prononcer.
Olivier Bastien, de l'Agence de biomédecine précisément, est-ce qu'on a tranché carte ou pas carte?
Alors, le problème n'est pas d'avoir une carte. La première chose qui est vérifiée avant d'aborder même les proches, c'est de vérifier si la personne s'était inscrite sur le registre du refus. Ça, c'est obligatoire. Il ne peut pas y avoir de prélèvement si on n'a pas consulté le registre du refus. Si la personne n'est pas inscrite, on va rechercher s'il y a eu un témoignage, soit écrit avec un document que peut amener les proches, soit on va demander aux proches si le défunt s'était exprimé de son vivant et s'il avait exprimé son refus. Et les proches vont pouvoir alors témoigner. Ce témoignage sera transcrit par écrit. La loi n'a pas changé. Le consentement présumé, il existe depuis 40 ans. Ce qui a changé, ce sont les modalités pratiques pour justement clarifier et faire en sorte que chaque personne qui est un donneur potentiel puisse le plus simplement possible avoir ses volontés qui soient respectées.
Mais Monsieur Bastien, pardon pour le cas d'école, Daniel, je vous donne la parole dans une seconde. Si il n'y a rien d'écrit, qui a la dernière main en fait ? Est-ce que c'est la famille ou est-ce que c'est le médecin ?
La famille doit témoigner. Elle n'est pas là pour prendre une décision. Si par contre, effectivement, on est dans un contexte qui ne permet pas d'engager un dialogue avec cette famille qui est totalement opposée, qui est éventuellement véhémente ou qui a des reproches à faire et qui est dans un contexte où on ne peut pas discuter avec elle, eh bien, au final, il n'y aura pas de prélèvement. C'est ce qu'on appelle le contexte n'a pas permis d'aboutir à un prélèvement.
Daniel,
mais
pardon.
Le principe de la loi, c'est bien de respecter la volonté du défunt.
Daniel Messager.
Oui, juste pour ajouter quelques mots. Le principe, c'est que toute personne est présumée donneuse de ses organes. Sauf, effectivement, si cette personne s'est manifestée dans le cadre de ce registre des refus, dans le cadre d'un proche, si elle l'a signifié par écrit ou par oral. Concernant la famille, effectivement, les parlementaires se sont rendus compte qu'il y avait un certain nombre de refus dus, c'est compréhensible, à des réactions parfois plus émotionnel que rationnel, et dans le cas d'une mort subite, c'est effectivement très compréhensible. Et il y a justement une mission parlementaire qui a été menée par le professeur Jean-Louis Touraine, qui vient de rendre des avis il y a quelques jours, disant que il fallait effectivement peut-être faire un peu plus de travail d'approche auprès de ces familles, mais c'est ce que vous faites, monsieur, qui êtes infirmier coordinateur, parce qu'effectivement, c'est important de porter le message auprès de ces familles. Ce qu'on comprenait pas bien aussi, c'est pourquoi il y avait une disparité régionale très importante, par exemple, pas tellement de refus dans une région et puis énormément de refus dans une autre. Donc, il est important de mettre tout ça à plat pour essayer de voir comment améliorer ces prélèvements d'organes. Je crois que la volonté serait d'aboutir à environ 7800 greffes par an environ, et on est autour de 6000, quelque chose comme ça.
En gros,
un peu moins de 6000.
Voilà, moi, ce que je vois dans les chiffres, c'est que s'il n'y a que 25% de refus, ça rentre, ça marche, en fait. Donc, il faut descendre à 25 et on doit être autour de 29 aujourd'hui.
Oui, pour c'est cent. Ça. Je pense que M. Bastien a les chiffres plus précisément que moi. Mais en effet, je pense que l'idée, c'est vraiment de descendre ce taux d'opposition pour pouvoir essayer d'offrir un maximum de greffes possible, en fait.
Et on va voir dans un instant où sont justement les oppositions. Mais je voudrais qu'on entende surtout des gens au 01 45 24 7000. Bonjour Cécile, bonsoir.
Bonjour.
Bienvenue dans le téléphone sonne.
Merci.
Cécile, on vous écoute.
Alors moi, ma question et mon témoignage concernent le don de sang. En fait, j'ai été opérée du cerveau en 1995. Et suite à ça, j'avais 19 ans. Suite à ça, quand je me suis présentée pour donner mon sang comme je faisais avant, on m'a dit que je ne pouvais plus donner mon sang. Car apparemment, donc les personnes qui ont été opérées au niveau du cerveau avant 2000 ont une suspicion un jour de développer la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc maintenant, ça fait 22 ans que j'ai été opérée, je suis toujours en bonne santé et on me refuse toujours de donner mon sang. Et je voulais savoir si un jour la loi allait évoluer.
Merci Cécile pour votre question très concrète. François Charpentier, l'établissement français du sang, c'est pour vous ça ?
Alors oui, tout à fait. Deux choses. D'abord, votre auditrice a effectivement raison, elle relate quelque chose de parfaitement vrai. C'est l'application du principe de précaution, étant donné qu'il s'agit d'une période au cours de laquelle on sait que la maladie dite de la vache folle, le Creutzfeldt-Jakob, était présente et qu'elle est transmissible par un certain nombre de substances, notamment le liquide céphalorachidien, et bien toute intervention neurochirurgicale, voire même certaines chirurgies de l'œil réalisées avant 2000 sont effectivement contre-indiquantes pour le don du sang. Voilà, application du principe de précaution. Il faut savoir que ce sont des maladies d'incubation extrêmement longues, plusieurs années, voire plusieurs décennies, et il y a donc tout lieu d'être extrêmement prudent, plus que ça même précautionneux. Voilà. La deuxième question de votre auditrice était, est-ce que ça peut changer ? Les choses ne sont jamais figées. Je veux dire, la médecine évolue, l'accumulation de données épidémiologiques ou autres nous permettent d'évoluer. Voilà. En ce qui concerne le cas précis, il n'y a pas d'évolution à court terme attendue.
Merci pour cette réponse concrète. Bonsoir Muriel.
Bonsoir.
Bienvenue dans le téléphone sans nom. Vous écoute Muriel.
Eh bien, moi je suis opposée à la greffe d'organes pour des principes philosophiques. Parce que j'estime que l'être humain doit être arriver à la mort dans son état d'intégrité. Et voilà, et c'est quelque chose de sacré pour moi. Il n'y a pas moyen d'y déroger. Je pourrais aborder la question par différents angles, hein, mais c'est le principal que je voulais aborder ce soir.
Pour des questions d'intégrité, vous dites, mais je vois que vous êtes aussi donneuse de sang et de moelle osseuse.
Ah oui, parce que je suis de mon vivant. Là, je fais ma petite part de colibri, si vous voulez. Hein, je participe à la fraternité humaine en faisant ce que je peux de mon vivant et consciemment. Par contre, je suis totalement opposée. Je me réfère à l'anthropologie, à la philosophie de la technique, à la critique de la marchandisation du vivant et au principe fondamental qui règne sur l'humanité, c'est-à-dire la prédation et la voracité. Ouvrir la boîte de Pandore, c'est ouvrir la boîte au tourisme de greffe, à la marchandisation des organes, aux biobanques, au scandale qu'il y a eu il y a quelques années en Angleterre avec 100 000 organes qui traînaient dans un frigo quelque part, enfin, etc., etc. Donc je suis opposée à découper les corps en morceaux et en faire de la marchandise après la mort.
On a bien compris votre opposition philosophique, Muriel, et c'est la vôtre, mais est-ce que du coup vous êtes inscrite au registre des refus ou pas ?
Oui.
Et vous vous êtes inscrite très vite, tout de suite en fait
Dès que j'ai appris que... De toute façon, je suis avec attention l'évolution de la législation et les comités de bioéthique qui ne font qu'entériner les mœurs. Et donc quand je vois que la greffe se développe comme j'y suis opposée, bon, dès qu'il y a eu opposition formelle, je me suis opposée formellement.
Eh ben, on a compris ce que vous nous disiez, Muriel. Merci beaucoup. Olivier Bastien, c'est vers vous que j'ai envie de me tourner. Ce genre d'opposition, de grande opposition de principe, est-ce que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent ?
Souvent non, mais ça fait partie des personnes qui s'inscrivent pour s'opposer à tout prélèvement sur le registre national des refus.
En général, les motifs de refus, quels sont-ils ? Qu'est-ce que vous voyez le plus souvent, en fait, qui peut-être...
Il n'y a pas de motif à justifier. Hein. Il n'y a aucune justification à fournir. La personne s'inscrit sur le registre du refus, soit totalement pour tous les organes ou pour tous les tissus ou pour tout, soit partiellement. Certaines personnes sont opposées à un prélèvement de tissus, par exemple, ou un prélèvement de cœur, mais seraient prêts à accepter un prélèvement de rein, par exemple. Et donc, ce qui est enregistré, c'est l'opposition, pas les justifications.
Marcel Solane, qu'est-ce que vous entendez, vous, lorsque les familles sont réticentes, et effectivement, Daniel le disait, on est quand même dans un moment d'émotion, dans un moment de mort subite le plus souvent, dans un moment d'émotion intense. Qu'est-ce que vous entendez, notamment de la part de la famille dans ces cas-là ?
C'est quand même très aléatoire, parce que ça dépend déjà de la constitution, on va dire, de la famille, ça dépend de la position de la personne qui est décédée, aussi la place qu'elle occupait dans cette famille. Et puis aussi très souvent du contexte de survenue de la mort, en fait, qui souvent, on va dire, est très brutal. La mort cérébrale arrive assez régulièrement dans les 48-72 heures après l'événement. Les familles, les proches qui refusent, en fait, ont malheureusement souvent la réponse de dire qu'ils n'en avaient jamais parlé. Mmh. C'est pour ça que tout à l'heure, j'incitais justement à pouvoir le verbaliser. Et quand même assez régulièrement, mais comme vous le disiez précédemment, ça reste quand même, en tout cas en Île-de-France, avec les origines ethniques très différentes, un taux d'opposition très en lien justement avec les croyances religieuses.
Mmh. Est-ce qu'on insiste ? C'est-à-dire jusqu'à quel point on se permet d'insister auprès des familles, ou est-ce qu'un premier non suffit à dire « bon ben non, on le fait pas en fait ».
Tout dépend la façon dont c'est verbalisé. Il y a très régulièrement, on va dire, une part d'incertitude qui est manifestée. Et donc, lorsque les gens sont incertains, c'est parce que souvent, ils n'en ont pas parlé. On essaye justement de les rapprocher un petit peu à la façon dont le défunt était de son vivant. Est-ce que c'est eux qui, justement, rapportent un non parce qu'ils n'osent pas, justement, de se dire, en fin de compte, on va aller au don d'organes, c'est une part de responsabilité que je dois prendre et je veux pas que ça crée de conflits. Ou alors, justement, est-ce que il voudrait aller vers le oui, mais sans vraiment connaître un petit peu tout ce qu'il y a derrière, en fait.
Daniel Messager.
Oui, vous évoquez l'Île-de-France, effectivement, avec beaucoup d'ethnies, de religions peut-être différentes. Le taux de refus est de 43% en Île-de-France, donc c'est effectivement un taux très important, quand il n'est que de 22% dans les Pays de Loire, par exemple. On voit qu'il y a une différence quand même très significative, d'où ce travail que vous devez faire auprès des différentes familles, effectivement. Est-ce qu'on pourrait rappeler, alors peut-être vous, Monsieur Bastien, quelles sont les circonstances dans lesquelles on peut prélever ? Ce sont des circonstances très précises. De mort subite, vous le disiez.
Oui, je vais laisser Monsieur Bastien répondre.
Allez-y.
Oui, je vais répondre, si vous voulez.
Allez-y, Monsieur Bastien.
Oui, donc il y a effectivement une circonstance qui est la plus connue, qui est celle où la personne est décédée dans un contexte de mort encéphalique. Le cerveau est irrémédiablement détruit, la personne est déclarée morte, mais le cœur bat encore, et donc un certain nombre d'organes peuvent être prélevés. La deuxième cause de cet arrêt de la circulation du cerveau, du sang du cerveau, c'est l'arrêt cardiaque. Donc c'est une cause qui est moins fréquente, qui peut se voir sur des situations de fin de vie ou des situations d'arrêt cardiaque inopiné. C'est des programmes qui se développent mais qui sont encore très nettement en infériorité numérique par rapport au prélèvement sur des personnes décédées de mort encéphalique. Et puis la troisième façon de prélever des organes pour faire des greffes, c'est le prélèvement sur des donneurs vivants, donc de leur vivant consentant, et en particulier pour la greffe de rein.
Clarisse nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir Clarisse.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Je voulais humblement donner mon témoignage de personne de l'autre côté du miroir, à savoir que je dois d'avoir reçu encore des cadeaux à Noël grâce aux dons de personnes qui ont simplement pris une ou deux heures de leur temps il y a quelques années, avant un 19 décembre, pour aller donner leur sang. Moi, j'ai fait une grave hémorragie dans la nuit du 19 au 20 décembre et je dois fêter mon 7e Noël avec ces gens qui ont simplement donné comme ça, sans réaliser peut-être ce qu'il y avait derrière. Moi, en salle de déchocage, très mal, je me suis accrochée à l'attente de ces poches de sang qui allaient me sauver la vie, aux réactions de l'équipe médicale. Et quand les poches de sang sont arrivées, je regardais ces gouttes tomber une par une et je me disais « accroche-toi, 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 accroche-toi ». Et petit à petit, j'ai senti mon cœur ralentir ses battements, j'ai senti l'oxygène revenir en moi, j'ai senti la vie revenir en moi. Et je m'accrochais et je me disais « on est à quelques jours de Noël, il y a des gens qui sont allés donner leur sang ». Alors que la majorité font les magasins pour acheter des cadeaux, préparer le repas des fêtes de fin d'année. Et je leur dois de fêter à nouveau Noël et à nouveau un nouvel an. Je voulais juste témoigner de ça, de l'autre côté du miroir. Que ça soit en transfusion, en urgence vitale, comme ça a été dans mon cas, ou que ça soit pour des malades chroniques qui ont besoin de ces transfusions pour continuer à vivre, pour continuer à pouvoir marcher, pour continuer à pouvoir monter les trois marches chez eux, parce qu'ils sont en aplasie. Je voulais, juste dire merci à tous ces gens. C'est beaucoup moins émotionnel que des dons d'organes sur quelqu'un en mort cérébrale. Mais c'est, je dois ma vie à la fraternité des gens qui ont donné leur sang simplement.
Merci beaucoup.
19 décembre.
Merci Clarisse. Merci beaucoup pour ce joli témoignage. François Charpentier, faut rappeler, elle le dit Clarisse très bien, 19 décembre. C'est dans ces périodes-là que pour le don du sang, les choses sont critiques.
Elle l'a tellement bien dit qu'on hésite à parler derrière cette auditrice. Elle l'a notamment dit, on va plutôt faire ses courses, on a la tête à la fête. C'est le cas en ce moment. Or en ce moment, c'est vrai qu'il faut venir, il faut penser à donner. Donner son sang, c'est également donner son temps. Et on sait, on travaille là-dessus, on sait qu'un des obstacles, la majorité des Français est d'accord pour donner son sang. Quand je dis la majorité, c'est même l'immense majorité. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre de freins. Parmi ces freins-là, c'est qu'en même temps, il faut donner son temps. Et c'est pas facile, surtout dans les milieux urbains.
Ça veut dire combien de temps, en fait, entre le moment où on est...
La totalité du parcours pour donner son sang, c'est de l'ordre de 3/4 d'heure, entre le moment où vous poussez la porte pour rentrer et vous la poussez pour ressortir. Le prélèvement lui-même dure une dizaine de minutes.
Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a des besoins plus urgents en cette période de fin d'année?
Alors, on a des périodes de tension régulières au cours de l'année qui sont liées à des phénomènes calendaires. Les vacances, les jours fériés ne sont pas propices à l'activité de collecte et ne sont pas propices non plus à la disponibilité des donneurs qui ont la tête ailleurs et parfois même qui ne sont pas chez eux. En hiver, se surajoutent les problèmes climatiques. En été aussi, d'ailleurs, de temps en temps maintenant, se rajoutent les problèmes d'épidémie, de gastro-entérite et de grippe. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les produits sanguins ont une durée de vie vie extrêmement courte. Donc en fait, le stock de produits que nous avons est en tension, est en équilibre fragile. Voilà. Et le moindre déséquilibre, un peu trop de consommation par rapport à d'habitude, un peu moins de collecte par rapport à d'habitude, fait basculer. Je ne peux pas collecter plus quand les choses vont bien. Les plaquettes, c'est un des produits qu'on fabrique avec le sang total, ce sont des petites cellules qui servent à coaguler le sang, elles vivent 5 jours. Vous voyez bien qu'on ne peut pas faire de réserve et vraiment l'effort est quotidien, 10 000 dons de sang. Et on demande effectivement à nos concitoyens en ce moment, grâce à la presse, c'est assez relayé, je le redis ici, c'est vrai que nous avons actuellement des stocks qui sont plutôt critique est un mot un peu fort. Aujourd'hui, on a de quoi transfuser les patients, mais on sait que les premières semaines de janvier, le redémarrage est difficile. L'acmé de l'épidémie de grippe, le pic, va être aux alentours du 20 janvier. Enfin, un certain nombre de facteurs se conjuguent et on sait qu'on n'est pas devant une période propice à la collecte. Mmh. Ce serait le cas, on ne s'inquiéterait pas. Ce n'est pas le cas, donc on dit pensez-y, ayez la tête, pas que dans la fête.
Et c'est vrai que, vous le disiez, François Charpentier, 80% des gens, peut-être plus, même sont favorables pour donner leur sang. Votre problème, vous, par rapport au don d'organes, c'est qu'il faut le répéter tout le temps. En fait, il faut le redire constamment.
Les chiffres sont différents. Nous, c'est 3 millions, c'est 10 000 dons par jour, c'est 3 millions de produits distribués tous les ans dans les 3 000 hôpitaux français.
Bonsoir, Christian.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, voilà, Christian, allez-y.
Je donnais du sang avant moi-même d'avoir, à la suite d'un accident, subi une transfusion. Et après cette transfusion, cet accident, lorsque j'ai été rétabli, j'ai voulu donner mon sang. Et lors du questionnaire, on m'a demandé si j'avais déjà été transfusé. J'ai répondu oui. Donc, interdiction, et j'ai regardé tout à l'heure sur Internet, effectivement, c'est toujours en vigueur. Alors, ça me semble quand même, c'est une mesure de précaution qui est prise, j'entends bien, ça me semble quand même excessif, ça devrait quand même probablement être revu, parce que les gens qui sont le plus enclins à donner du sang sont ceux qui en ont déjà bénéficié, enfin, c'est ce que je pense.
Les gens qui ont reçu ont envie de rendre.
J'ai vraiment l'impression que c'est excessif comme mesure. Je précise que je ne suis ni homosexuel, Dieu m'en garde, ni drogué.
Non. Bon, ça, on n'est pas obligé de faire ce genre de remarques, Christian. Vraiment, on n'est pas obligé. Sur les mesures de précaution, François Charpentier.
La sécurité peut pas être la variable d'ajustement du système. Il y a donc des règles de sécurité qui valent, quel que soit le contexte. La problématique des transfusés, c'est encore là l'application d'un principe de prudence, voire même de précaution contre quelque chose qu'on ignore. On sait très bien que un nouvel agent infectieux émergent qu'on mettrait du temps à découvrir, la transfusion est un facteur multiplicateur de sa diffusion. On l'a bien vu, d'ailleurs, dans les années 86-90, avec l'affaire du sang contaminé et le VIH. Donc, on se prémunit contre ça. Et encore une fois, je ne peux pas mieux le dire, on a des règles qui tiennent à la sécurité, à la prudence, à la précaution, et on ne calcule pas ces règles en fonction de l'envie qu'on aurait d'avoir un peu plus de donneurs par-ci, un peu plus de donneurs par-là. Je veux dire, la sécurité n'est pas la variable d'ajustement. Voilà. Donc, le cas de la transfusion, comme ce monsieur, cet auditeur le dit très bien, effectivement, et nous sommes les premiers à considérer que c'est dommage, ils ont envie de rendre. Voilà. Maintenant, ils le peuvent en témoignant. Voilà, ça, monsieur, votre témoignage parmi votre environnement, vos proches, va certainement inciter des gens à passer à l'acte, et c'est ça dont nous avons besoin.
Bonsoir, Marie-Noël. Bonsoir, on vous écoute, Marie-Noël, allez-y.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Voilà, écoutez, moi j'habite en province et je me demande si on peut donner ses organes quand on est loin d'un CHU.
C'est-à-dire, Marie-Noël, parce qu'il y a quand même des conditions et des circonstances pour donner ses organes.
Oui, admettons qu'on soit d'accord pour les donner. Je vous pose la question pour ma fille qui veut donner ses organes. J'espère bien que ça ne sera pas de sitôt. Mais nous habitons une ville de province et a priori, pour donner ses organes, il faut être près d'un grand hôpital, d'un centre hospitalier universitaire.
D'accord, on a bien compris. Olivier Bastien, pour répondre à la question de Marie-Noël, faut-il être près d'un grand hôpital ?
Absolument pas. Il y a un maillage, il y a plus de 180 établissements autorisés à prélever les organes. Ce sont des hôpitaux de taille moyenne, ce ne sont pas du tout des CHU. La moitié des organes proviennent d'établissements qui ne sont pas des CHU.
Et ben voilà,
comme ça. De toute façon, on est obligé d'être hospitalisé. On est en personne qui va décéder dans un contexte de traumatisme ou d'accident grave ou d'hémorragie cérébrale. Donc, c'est une personne qui est hospitalisée dans un hôpital.
Merci beaucoup. Daniel Messager, vous vouliez faire une remarque?
Oui, je voulais qu'on revienne sur ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, assez brièvement, les dons d'organes de son vivant. Donc, quel type d'organes est-ce que ça concerne? Est-ce que il y a des, on facilite maintenant certains types de dons entre amis, entre très proches, et plus uniquement la famille très proche? Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ces capacités de dons de son vivant?
Absolument. Donc actuellement, le don du vivant s'intéresse essentiellement au prélèvement de reins, puisqu'on a deux reins, et qu'on peut vivre sans problème à partir du moment où on a été bilanté avec un seul rein. Il y a 16% actuellement des greffes de reins qui se font à partir de donneurs vivants. On en fait 570 en 2016. L'objectif, c'est d'arriver à 1000 greffes de donneurs vivants de reins en 2021. Voilà, on peut aussi, pour des enfants, faire un prélèvement d'un lobe de foie. Et il y a eu des tentatives sur le poumon, mais qui ont été abandonnées. Alors, pour l'élargissement, effectivement, la loi de bioéthique a élargi le cercle des proches, c'est-à-dire qu'on peut également donner lorsqu'on a un lien affectif stable depuis 2 ans avec une personne, et c'est un magistrat qui va établir ce lien de proximité, et la personne va également confirmer son information et son consentement devant un comité d'experts donneurs vivants qui va vérifier la bonne compréhension et le libre consentement de cette personne.
Isabelle, bonsoir, soyez la bienvenue.
Bonsoir, j'appelle à propos du don du sang. L'auditrice qui a parlé tout à l'heure m'a beaucoup émue quand elle a parlé de l'hémorragie qu'elle avait subie et la poche de sang qu'elle a reçue, voilà, ça m'a beaucoup émue. Moi, je donne depuis beaucoup d'années maintenant. À l'origine, pourquoi? Parce qu'on a un petit garçon qui n'avait plus du tout de globules rouges suite à un virus qui était mal placé, et on a été vraiment touchés de qu'il puisse bénéficier d'une transfusion et de repartir de pied ferme dans la vie. Mais alors, c'était pas ma question. Ma question, c'était voilà, depuis que je donne du sang, on m'a sollicité également pour donner du plasma. Je l'ai fait depuis 2 fois, et à chaque fois j'ai posé la question de pourquoi le plasma, à quoi ça servait, et on m'a expliqué que c'était pour les grands brûlés, mais également pour fabriquer des médicaments. Et j'ai jamais eu plus de réponses, c'est resté toujours, ça manquait de transparence. Donc je profite de l'émission pour poser la question, à quoi sert le plasma? Est-ce qu'il est vendu? Voilà, c'était parce que moi je le donne bénévolement et vraiment de bon cœur, et j'aurais voulu avoir cette réponse. Donc je vous remercie pour votre réponse.
Et bien François Charpentier va vous répondre, le plasma pour qui, pourquoi?
Alors, les besoins en plasma sont effectivement en augmentation constante. Les plasmas sont effectivement une source de médicaments dérivés du sang. Je vais expliquer en France comment cela se passe et comment la filière éthique est préservée, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de parties du monde, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le plasma? On fait des facteurs de coagulation, on fait de l'albumine, on fait surtout un produit qui s'appelle les immunoglobulines, qui est un produit dont la consommation en médecine augmente de façon exponentielle, parce que ce sont des anticorps, et ces anticorps servent à soigner un grand nombre de maladies auto-immunes, certaines maladies rares. Voilà, donc le besoin augmente de façon exponentielle. Le besoin est tel que le don de sang simple, parce qu'on on prélève un peu de plasma sur le don de sang, quand on donne son sang, on donne des plaquettes, des globules rouges et du plasma. Le plasma qu'on recueille à travers le don du sang ne suffit pas. Il faut donc faire du prélèvement de plasma spécifique, ce à quoi votre auditrice faisait allusion. Voilà à quoi ça sert. Après, je pense qu'elle avait une question. Qu'est-ce qu'on en fait en France?
Et surtout, elle parle de prix et ça revient très souvent. Est-ce qu'on vend tout ça?
En France, la filière est organisée sous le contrôle de l'État avec 2 partenaires. L'Établissement français du sang, qui collecte, qui prélève les dons de plasma, et un établissement public, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, auquel l'EFS cède son plasma et qui, lui, fabrique des médicaments dérivés du sang et les propose aux hôpitaux.
Monique est au téléphone au 01 45 24 7000. Bonsoir Monique, allez-y.
Oui, bonsoir. Ma question concerne le risque pour les receveurs si le donneur suit de multiples traitements médicamenteux, par exemple comme c'est mon cas. Moi, je serais d'accord pour donner, mais je me dis, je peux être toxique pour le receveur.
Et vous parlez de sang, hein, Monique, j'imagine?
Non, pas uniquement, pour les organes aussi.
D'accord, pour les organes aussi.
On prend plusieurs traitements, les organes, finalement, sont remplis de ces traitements. Hein.
Alors, l'un après l'autre, François Charpentier, d'abord, on est dans le cadre de la précaution, là, pour le coup.
Alors, pas que de la précaution, une réponse très simple. Hein. Ce qui compte plus, c'est la raison pour laquelle vous prenez un traitement que le traitement lui-même. Les médicaments, en tout cas en termes de don de sang, qui contre-indiquent le don, c'est une liste extrêmement limitée. Ce sont des médicaments qu'on appelle tératogènes, c'est-à-dire qu'ils ont un risque pour le fœtus et on s'abstient de prévenir les donneurs qui les prennent, mais il y a une liste d'une vingtaine de médicaments. Pour le reste, c'est pourquoi le donneur prend ce médicament, et c'est le pourquoi, c'est la pathologie qui est à la base de cette prescription qui va plus être déterminante sur il peut donner ou il ne peut pas donner.
Olivier Bastien, est-ce que c'est le même genre de réponse lorsqu'on parle de don d'organes ?
C'est à peu près le même genre de réponse. Il y a également des prélèvements qui sont possibles lorsqu'une personne est intoxiquée et décède dans le cadre d'une intoxication. Mais à ce moment-là, on va mesurer le taux de médicament et on va vérifier, bien entendu, que le médicament n'a pas eu de dégâts, n'a pas entraîné des dégâts au niveau de chaque organe.
Marcel Solagne, moi je suis intrigué par une chose. Quelle sorte de formation serait nécessaire, en fait, pour mieux parler aux familles? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous seriez demandeur de choses de ce goût-là pour mieux parler, pour mieux aborder ces problèmes-là? Est-ce que vous avez l'impression que tous les gens qui gravitent autour de ces problèmes de greffe et autour de la famille sont suffisamment formés?
Alors, la formation des infirmiers coordinateurs est essentiellement un compagnonnage, en fait, hein, puisqu'on va pas... On va pas aborder les proches d'un donneur comme si on était vendeur de carottes, par exemple, ou
autre.
Il y a des termes bien précis et un positionnement bien particulier à avoir. L'Agence de la biomédecine propose des formations avec des professionnels, justement, qui vont permettre de donner, en fin de compte, des leviers d'action, des petites ficelles qu'on va pouvoir essayer d'activer, mettre en place à l'occasion de l'accompagnement et l'entretien avec les proches. Sachant qu'il n'y a jamais un entretien qui est identique, en fait. Parce que toutes les personnes que l'on rencontre sont différentes, mais il y a en effet un programme de formation qui existe.
Daniel Messager.
Et est-ce qu'on laisse une réflexion à ces familles? Combien de temps dispose-t-on, par exemple, de conservation des organes et de dire à la famille, réfléchissez, vous avez quelques heures ou pas, parce que ce n'est pas possible avec les organes prélevés?
Alors, on essaye d'organiser les entretiens idéaux. En fin de compte, on essaye de les organiser en trois temps. C'est-à-dire le premier temps consiste en fin de compte une concertation entre le médecin réanimateur et l'infirmier coordinateur à se dire mais comment va-t-on aborder les choses en fonction du contexte, en fonction de la situation. Dans un second temps, il y a le premier entretien avec les proches où on annonce, le médecin réanimateur annonce l'état de mort encéphalique. Et dans un troisième temps, environ une heure, deux heures en fonction aussi de la stabilité du donneur, on va essayer cette fois-ci d'aborder le don d'organes. Et là, c'est l'infirmier coordinateur qui a en fin de compte cette fonction.
Mais ça veut dire que c'est vraiment qu'une question d'heure, en fait. Ça peut pas être une question même pas d'un jour, quoi.
Non. Alors, on peut quelquefois en fin de compte reporter, mais on a encore une fois, on va dire, dans un cerveau qui est mort, avec une instabilité générale, en fin de compte, sur les différents organes, en fait.
Philippe, au 01 45 24 7000. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir France Inter. Merci de prendre ma question. Voilà. Je fais une comparaison entre, vous savez, entre nos pays, notre pays, France, oui, qui est le pays France et l'Espagne. Je crois que l'Espagne a toujours été plus d'honneur que nous concernant nos organes parce que la collectivité prend en charge, justement, les frais funéraires pour inciter les gens à donner plus, je crois. C'est ça ma question.
Et je n'ai absolument pas la réponse. Est-ce que quelqu'un a cette réponse? Je voudrais surtout piéger personne. Olivier Bastien, est-ce que vous savez si les Espagnols d'abord sont plus d'honneur que nous?
Alors, le taux de prélèvement par million d'habitants est plus élevé en Espagne qu'en France. En France, on est en troisième position en Europe, mais la France est le premier pays en nombre absolu de greffes dans toute l'Europe. Après, l'Espagne est un pays qui n'est pas, comme vous l'avez vu, unique, et donc il y a des provinces, et il peut y avoir des variations entre les provinces. Certaines provinces, effectivement, ont des mesures incitatives pour favoriser les funérailles ou prendre en charge certaines parties du retour du corps. Je crois que ce qui a été quand même très positif dans l'expérience espagnole, c'est d'abord le positivisme et la communication extrêmement positive qui a eu lieu en Espagne. Alors qu'en France, même si on est le premier pays en nombre de greffes dans toute l'Europe, on en fait deux fois plus qu'en Allemagne. On est tout le temps en train de dire la France, il y a une pénurie, il y a ci, il y a ça. Et je crois que c'est un message qui n'est absolument pas utilisé en Espagne.
Mais alors, ça veut
et
dire
la deuxième,
quoi,
c'est la formation.
Ça veut dire qu'on est quoi? On est trop négatif? On n'en parle pas assez? On n'en parle pas bien?
On est probablement trop négatif et on ne met pas assez en valeur la qualité de la filière de transplantation en France.
Je vous pose la question parce que François Charpentier ne va pas me contredire. Sur le don du sang, on fait des campagnes, on fait des appels, on vient en parler et finalement c'est beaucoup moins le cas pour ce qui est du don d'organes. Est-ce qu'il ne faudrait pas, faudrait-il, est-ce que vous seriez favorable à ça? Allons-y franchement, des campagnes de publicité, des choses beaucoup plus sur la place publique pour favoriser l'information et aussi le don d'organes donc.
Oui, il y a eu des campagnes quand même, et moi je constate depuis 2 ans que les médias, et je vous en remercie, se sont vraiment saisis de cette question du don d'organes et ont vraiment relayé. Et ça se traduit dans les chiffres, puisque maintenant plus de la moitié des Français sont capables dans les sondages de dire on est tous donneurs potentiels, sauf si on a exprimé son refus. C'est une avancée considérable en 2 ans.
Jean nous appelle justement exactement sur ce même thème. Bonsoir Jean, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle, c'était en réaction par rapport à l'intervention d'un auditeur précédent qui s'était positionné sur le fichier des refus. Mm-hmm. J'avais une simple interrogation, donc quand il se positionne sur le fichier des refus, il se positionne également sur le refus d'accepter un organe de quelqu'un d'autre. Alors, c'est un peu polémique, mais...
Un tout petit poil polémique, mais en même temps, très bien pour la question, Olivier Bastien, c'est pour vous. Quand on est dans le refus, évidemment, ça marche pas à sens unique, heureusement, non?
En France, le comité d'éthique nationale s'est opposé à ce qu'il y ait un veto pour une greffe, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Dans certains pays, vous ne pouvez pas être greffé vous-même si vous avez été en opposition au prélèvement.
Et ce fameux refus, est-ce qu'il faut le renouveler? Parce que je trouve que ça marche un peu comme les déclarations anticipées, comme les directives anticipées pour ou contre l'euthanasie. Il faut le renouveler pour être sûr qu'on a la même idée dans 3 ans, dans 6 ans. Est-ce qu'il faut le refaire ou est-ce que c'est définitif?
C'est pas définitif, mais on n'a pas besoin de le refaire. À partir du moment où on est inscrit définitivement, sauf si on veut revenir sur sa position.
On peut se désinscrire, on est d'accord.
Là, on peut se désinscrire.
Michel, c'est vous la dernière auditrice ce soir. Soyez la bienvenue, on vous écoute,
gentil,
Michel.
Je vous remercie. Voilà,
allez-y.
Voilà, je voudrais vous poser une question. Je vous dis bonjour, je dis bonjour à tout le monde. Je veux être incinérée, mais je veux bien donner mes organes, bien que je suis diabétique, j'ai eu des opérations et tout. Bon, je veux bien donner, mais je voudrais savoir ce qu'on fait de mon corps une fois qu'on a tout prélevé. Parce que j'aimerais bien qu'on rende mon corps à mes enfants pour que, bon, bah, ils m'incinèrent après, mais ils ont quelque chose. Tandis que là, et ça, on ne pose jamais la question. Et c'est un peu angoissant.
Eh ben, vous venez de la poser, la question, Michel. J'aime bien l'idée, pardon, hein, mais après tout, on a un peu souri autour de la table. À la fois, vous voulez récupérer votre corps, mais après, il faut le brûler. Mais en même temps, pourquoi pas, Martial Solagnon, rend le corps à la famille, évidemment.
Oui, bien évidemment. En fait, La démarche de don d'organes est une parenthèse par rapport au processus, par rapport aux démarches qui sont entreprises. Je crois que la grande démarche, en fin de compte, à avoir, c'est d'intégrer le don d'organes dans ses dernières volontés, en fin de compte. Et ce qui fait que lorsqu'il y a un don d'organes, ensuite, après l'intervention chirurgicale, le corps donc va à la chambre mortuaire, et puis le corps est à disposition des proches, de la famille, pour organiser les obsèques que souhaitait le défunt ou... si elle ne s'était pas prononcée sur ces obsèques qui sont mises en place.
Et pour dire les choses le plus concrètement possible, le corps est rendu
avec
propre.
Avec toute son intégrité,
mais bien sûr.
Voilà.
Et c'est toujours important de le répéter.
Et c'est le rôle des infirmiers coordinateurs, justement, d'être vigilants, justement, à la restitution du corps. En fait.
Alors quand même, il nous reste une petite minute, c'est pour vous, Olivier Bastien. On dit qu'on manque effectivement d'organes et que c'est compliqué. On est quand même, soyons positifs, on est quand même en progression, si on regarde les chiffres. Sur cette année, par exemple, depuis que donc la loi a un peu changé sur le don, est-ce que ça se voit déjà dans les chiffres ou pas du tout?
Il y a effectivement une baisse qui commence à être sensible en termes de taux de refus, mais ce qui est le plus important, c'est le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre d'organes qui peut au final être réellement prélevé. Et là, on a une augmentation qui est d'au moins 4% cette année, on va dépasser les 6000 greffes cette année, donc c'est positif, mais il faut continuer parce qu'on a encore besoin de plus de transplantations pour les années à venir.
Voilà, on va le redire, hein, ce chiffre, 7800 greffes par an, en gros, voilà le chiffre qu'il faudrait atteindre, on n'y est pas tout à fait, ça voudrait dire ramener un taux de refus à 25%, il est autour de 29% en ce moment. L'occasion évidemment de refaire un téléphone sonne sur la question. Merci beaucoup, merci à tous, merci de toutes vos questions et merci de votre présence ce soir.